Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Je voudrais ce soir parler de sport. La Bible est un livre aussi formidable qu'universel. Je n'en connais pas de pareil. Certains pensent que la Bible est un livre ennuyeux parce qu'ils ne l'ont jamais lu. Avez-vous déjà lu le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament? Eh bien, moi j'appelle le livre des Actes le livre d'aventure de la Bible. J'ai même été jusqu'à l'appeler le livre cacahuète. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on commence à manger des cacahuètes, on ne peut plus s'arrêter avant d'avoir vidé le paquet. C'est passionnant le livre des Actes. Si passionnant que quand on le commence, on ne peut plus s'arrêter avant la fin. Je vais vous lire dans l'Épître aux Hébreux du Nouveau Testament un texte que je transformerai légèrement par la suite. D'abord, je le lis textuellement. Au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, je lis « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui est devant nous, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Pardon. Transposé dans notre temps, cela donne « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de spectateurs, rejetons tout surplus et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons sur la piste avec persévérance, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef de file qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. » J'ai donné pour titre à la rencontre de ce soir la dernière étape. Et c'est assez approprié puisque nous sommes en plein dans le Tour de France. J'ai vu, roulant sur une piste cyclable, un tout jeune homme sur un vélo d'entraînement à pignon fixe. La tête rentrée dans les épaules, les mains accrochées au guidon, une mallette blanche jetée en travers du dos, il escaladait les côtes en danseuse, il dévalait les pentes en un moulinet de jambes effarant. Sa vie est un exemple de régularité. Pas de tabac, pas d'alcool, pas de sortie tardive, rien qui vienne entraver le but qu'il poursuit. Et tandis qu'il dévore les kilomètres à la force des jarrets, ses pensées vont au triomphe à venir. Il voit sa licence de coureur indépendant, il se voit passer professionnel, il voit les arrivées triomphales et rêve des rêves. Il se voit boucler la grande boucle française, la casaque d'or et l'arrivée triomphale sur les Champs-Élysées à Paris. J'ai vu les pugilistes à l'entraînement, le corps ruisselant de sueur tellement étaient intenses les exercices auxquels ils s'adonnaient. Je les ai vus braver les coups, grimacer de douleur, et briller dans le regard la lueur des grands triomphes à venir. J'ai aussi vu le livre de l'expédition Hunt, qui, en vainquant l'Everest, est monté le plus haut. J'ai lu le livre de celui qui, du plus haut de son ciel, est venu au plus bas sur cette terre. Et si l'exploit ascendant de la mission Hunt m'a rempli d'admiration, c'est l'exploit descendant de Jésus-Christ qui a fait vibrer mon cœur. Parce que s'il est descendu si bas, s'il a tant souffert, s'il a versé son sang et si finalement il est mort, comme on sait, sur une croix, c'est parce qu'il m'aimait personnellement et c'était pour sauver mon âme de la perdition éternelle. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'un Tour de France n'est sûr d'être gagné qu'à l'arrivée de la dernière étape, qu'un match de football n'est sûr d'être gagné qu'au coup de sifflet final, et qu'un match de boxe n'est gagné qu'à la dernière seconde du dernier round. Je me souviens de certains Jeux olympiques où l'un des concurrents du marathon a surclassé tous les autres, et où, en vue de la ligne d'arrivée, il s'est effondré, victime de crampes d'estomac et incapable de faire un pas de plus. Savez-vous, mes amis, vous qui collez l'oreille à votre radio transistor pour connaître les derniers résultats sportifs, que vous êtes vous-même engagé dans la course de la vie et que l'arrivée est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Savez-vous, vous qui avez plaint ces infortunés qui avaient donné l'impression de victoire et qui ont finalement été vaincus, que vous aussi, vous pouvez donner l'impression de remporter bien des victoires, de vivre une petite vie bien propre et, en vue de la grande ligne d'arrivée, d'être éternellement perdu. Savez-vous que si, dans le domaine des sports, la décision d'arbitre, même injuste, sont quasi irrévocables, la décision de l'arbitre suprême de notre salut ou de notre perdition éternelle sera, elle, à tout jamais irrévocable. Savez-vous que ceux qui participent aux épreuves doivent se soumettre au règlement, sous peine d'être disqualifiés, et que, pour la course de la vie, Dieu nous a donné un règlement en 10 points qui s'appelle les 10 commandements, et que les enfreindre, c'est encourir la disqualification éternelle. Vous savez aussi que les sportifs ont plus d'un tour dans leur sac pour se faire pousser sans se faire voir, pour porter un coup bas, pour se doper en cachette, et que nous avons aussi dans la vie toutes sortes de ruses subtiles par lesquelles nous parvenons à tromper honnêtement notre semblable. Un coup de pouce en plus sur la balance au moment de servir la marchandise, une pelletée en moins dans le sac de charbon, un seau d'eau au petit veau que l'on vend au boucher avant de le mettre sur la bascule, et voilà de l'eau de robinet vendue à 5 € le litre, ou la loupe du mensonge commercial où l'on fait passer la camelote pour un article de première qualité, ou la publicité mensongère, ou la facturation exagérée, ce sont là mille et un petits trucs qui nous laissent la réputation d'être des honnêtes gens. On appelle ça les ficelles du métier. Mais ces ficelles-là seront un jour tressées ensemble et elles formeront autant de cordes solides avec lesquels seront garrottés ceux qui les auront employés. Au jour solennel de la grande arrivée, Dieu sera l'arbitre unique ou de notre salut ou de notre élimination éternelle. Certains pensent que tout ça c'est du blablabla. Causez toujours, monsieur le moraliste. Mettez vos amplificateurs à fond, moi ça me coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Dieu, je veux bien admettre qu'il existe, mais Dieu verrait-il, Dieu entendrait-il? C'est sans doute ce qu'a dû croire un grand fermier américain d'il y a quelques décades. Il vivait dans l'état de l'Illinois. Il a un jour écrit au directeur d'un journal, lui demandant de publier une lettre ainsi conçue. J'ai labouré mon champ un dimanche. Et l'on sait combien les anglo-saxons sont scrupuleux, ou étaient scrupuleux sur le dimanche. Donc je reprends, j'ai labouré mon champ un dimanche, j'ai hercé mon champ un dimanche, je l'ai ensemencé un dimanche, je l'ai entretenu les dimanches, je l'ai fauché un dimanche, et j'ai rentré ma récolte un dimanche. Et au mois d'octobre, ma récolte était plus belle que ceux qui n'avaient pas travaillé le dimanche. La lettre qu'il reçut en retour fut pour lui le choc de sa vie. Il était tout simplement écrit « Monsieur, Dieu ne règle pas toujours ses comptes au mois d'octobre. » Et la Bible dit aussi « Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. » Après quoi vient le jugement. En fait, notre vie est comme une course à étapes, je dirais une course en 7 étapes qui sont 1. La naissance, 2. L'enfance, 3. L'adolescence, 4. La maturité, 5. La vieillesse, 6. La mort, et puis 7. La dernière étape, la comparution devant Dieu. Pendant les 6 premières étapes de notre vie, nous avons l'occasion de chercher Dieu et de le trouver, de nous mettre à la recherche de la vérité et de la découvrir. Pendant les 6 premières étapes, nous avons l'occasion de nous repentir de nos péchés, de les confesser à Dieu et de les quitter, et d'accepter que Jésus-Christ devienne notre sauveur personnel. Et si nous entrons dans ce schéma qui est celui de Dieu, alors la 7e étape, la grande arrivée, sera exempte de toute erreur, parce que la Bible dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Peut-être que quelqu'un, inquiet avec raison, va penser ce soir « Mais comment puis-je savoir que je serai vraiment sauvé ?» Quelle garantie ai-je que mon arrivée devant Dieu sera un salut et non pas une catastrophe éternellement irréparable? Eh bien, voici la réponse. Si la Bible enseigne notre défaite, et elle le fait, en disant qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, la Bible, donc, nous enseigne notre défaite spirituelle, mais elle ne s'arrête pas là, et elle va heureusement plus loin. Voyant notre défaite, la Bible ajoute que Dieu nous a envoyé le chef, le capitaine de notre salut. Je souligne, le capitaine. Ce terme, tiré de la Bible anglaise, et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 10, et c'est un terme sportif. Dieu nous a envoyé le capitaine de notre salut pour redresser une situation que nous avions compromise. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et l'emplacement où notre capitaine s'est présenté pour rencontrer l'adversaire qui nous avait vaincu, ce n'était pas un stade, ni une piste, ni un ring. C'était un lieu situé en dehors des murs de Jérusalem, appelé la colline du crâne, le Golgotha. C'est là qu'il s'est mesuré à notre adversaire. Et vous allez peut-être penser que la suite du récit est effrayante. Déjà en Gethsémané, il vacillait. La sueur qui lui coulait de la tête était de sang. Il s'était déjà écrié « S'il est possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive !» Et puis lorsqu'il a été cloué à la croix, il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce capitaine dont vous nous parlez ne fait pas figure de vainqueur, mais plutôt de vaincu. Alors, s'il est vaincu, comment peut-il nous donner la victoire? Voyez-vous, notre conception à nous de la victoire n'est pas celle de Dieu. Nous concevons généralement la victoire comme ceci, un ennemi écrasé, réduit à l'impuissance, un vainqueur rempli de fierté avec une foule de possédés qui tout autour hurlent leur joie. Ça, c'est l'idée humaine de la victoire. Mais celle de Dieu est différente. C'est celle, par comparaison, de ce pilote anglais de la RAF, aux commandes de son jet qui vole à assez basse altitude, et tout à coup, c'est la panne. Il peut sauter. Mais s'il saute, l'avion va s'écraser sur une colonie d'une cinquantaine d'enfants. Et il a le choix entre sauver sa vie et voir 50 enfants périr, ou rester quelques secondes de plus aux commandes de l'appareil et le piloter loin de la colonie d'enfants et périr. Et c'est ce qu'il a fait. Sa mort a été le salut pour les 50 enfants. C'est cela la victoire de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, nous avons péché, donc nous méritons la mort. Mais Jésus-Christ est venu. Il a pris nos péchés à son compte et il en a subi la peine à notre place. C'est ce que veut dire ce texte. Il est mort pour nous. La dette de nos péchés étant payée, ceux qui étaient en proie à Satan, au péché, à la chair, sont ravis à leur étreinte. Les prisons brûlantes de l'enfer se vident de leur contenu d'âmes précieuses. Et Satan, notre ennemi à tous, voit des âmes ayant une valeur éternelle lui glisser des mains et trouver refuge dans celui qui a eu les bras étendus sur la croix. C'est cela la victoire de la croix. Mais la mort de Jésus-Christ, ce n'est que la moitié de la victoire. La Bible nous dit que non seulement Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité, c'est-à-dire que la mort n'a pas été capable de le retenir. C'est l'événement stupéfiant des siècles. La pierre du tombeau a roulé. Les disciples sont entrés pour constater que le tombeau était vide. Le Seigneur est vivant, et où est-il? Eh bien, il est là, à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, dit la Bible, et nos noms, les noms de ses rachetés, ces noms-là sont écrits, gravés dans son cœur. Voici une comparaison. Le souverain sacrificateur du peuple juif, aussi appelé le grand prêtre, lorsqu'il se présentait devant Dieu, portait un pectoral sur la poitrine. Et sur ce pectoral, ce vêtement appelé pectoral, il avait gravé les noms des 12 tribus d'Israël. Il portait Israël sur son cœur devant l'Éternel. Eh bien, Jésus-Christ ressuscité est devant Dieu notre représentant, comme l'était le souverain sacrificateur d'Israël, et il nous porte sur son cœur. Si bien que quand Dieu regarde son Fils aujourd'hui, il voit nos noms. Quand Dieu regarde votre orateur aujourd'hui, il voit le cœur de son Fils. Quand il regarde cet être coupable et insignifiant que je suis, il ne peut le voir qu'au travers du sang de son Fils, duquel il est dit « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché ». Oui, le Sauveur a avec lui dans le ciel une longue liste de noms. C'est la liste de tous les engagés de tous les siècles qui, un jour, se sont convertis à lui. À la Pentecôte, il y en a eu 3 000, et puis 5 000. Et puis, au cours des siècles, des multitudes d'hommes et de femmes se sont tournés vers lui, et plaisent à Dieu qu'aujourd'hui, parmi ceux qui sont ici, il y en ait qui se tournent vers le Seigneur, et qui l'acceptent comme leur sauveur bien à eux. Mes amis, laissez-moi vous dire que bientôt, et c'est sérieux, bientôt le bureau des inscriptions sera fermé. Nous l'avons dit hier soir, il est temps de chercher l'Éternel. Le ciel va se jouer à bureau fermé. Ce sera le huis clos éternel. C'est pourquoi il est écrit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Je veux maintenant vous faire voir la fin, la dernière étape de ceux qui n'ont pas voulu s'engager sous l'étendard de la croix, de ceux qui n'ont pas combattu selon les règles, de ceux qui ont vécu 6 étapes de leur vie sans se soucier de la dernière. Je veux que vous voyez ce soir que celui qui pourvoit à cette vie seulement, sans pourvoir à l'autre, est sage pour un moment, mais un insensé pour toujours. Et pour preuve, je citerai Voltaire, qui a vécu tout près d'ici, puisque nous sommes à la frontière du pays de Gex. Cet homme était un génie. Il a eu sa cour personnelle. Il a fait la nique au tout-puissant Louis XIV. Il a fait la nique à Dieu, et même à la mort, semble-t-il. Mais un jour, la mort a pris sa revanche, et elle est venue le trouver pour de bon. Et Voltaire, paraît-il, tremblait de tous ses membres. Il a eu une agonie épouvantable. Et il se serait écrié, « je suis perdu, oh, je voudrais n'être jamais né. » La dernière étape. C'est aussi celle d'un riche insensé, celui dont nous avons parlé hier soir. Ses terres avaient rapporté en surabondance cette année-là. Il a abattu ses vieux greniers, il en a construit de nouveaux et de plus grands. Et il a dit cette phrase qui fut sa dernière. « Mon âme !» Ah, il croyait qu'il avait une âme au moins. « Mon âme, tu as des biens en abondance pour beaucoup d'années. Va, mange, bois et réjouis-toi » Et à cet instant précis, il a entendu une voix à l'oreille qui lui a dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Insensé !» Le dernier état d'un homme qui franchit sa dernière étape. Si vous n'avez pas Christ comme sauveur, je veux que vous vous voyez debout devant le vaste portique, donnant sur l'esplanade du jugement dernier dressé comme une formidable arène. Je représente la scène de cette façon-ci. Il y a 2 entrées. Une à chaque bout de l'arène. Et sur une des entrées, il est écrit « Entrée des pécheurs » et sur l'autre « Entrée des accusateurs ». Et l'appel des noms commencera. Un nom, puis un autre nom, puis d'autres noms. Les noms de tous ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Et si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, votre nom sera prononcé, et vous vous tiendrez tout seul au milieu de l'arène, à la barre du tribunal de Dieu. Alors, de cette porte, des accusateurs entreront une multitude d'êtres à l'air diabolique. Ils sont sombres, ils ont le regard empoisonné. Ils occupent les premiers gradins. Vous les reconnaîtrez tous au passage. Ce sont vos péchés de l'année dernière. Il n'en manquera pas un seul. Ils pointeront tous un doigt accusateur vers vous. Et puis le deuxième gradin se remplira de vos péchés de l'année précédente. Puis le troisième, le quatrième, le dixième, le cinquantième. Ils viennent en foule. Ils vous accuseront tous. Mes amis, plus moyen de recourir au pardon. L'humble maître de Nazareth qui, pendant les 6 premières étapes de votre vie, aurait voulu être votre sauveur, sera ce jour-là l'arbitre unique de votre élimination éternelle, parce que la Bible dit que Dieu a remis tout jugement entre les mains du Fils. Je veux maintenant parler à ceux qu'une calamité pareille effraie à juste titre. Je veux parler à ceux qui veulent échapper à la disqualification éternelle, à ceux qui disent « Nous avons compris et nous voulons nous convertir, nous voulons appartenir à Dieu. » J'aimerais que vous n'alliez pas trop vite dans cette décision, car je veux que vous soyez au clair et que vous sachiez en quoi consiste la course chrétienne. Je veux vous en montrer les gloires et les difficultés, les joies et les larmes, les extases et les souffrances. Tout d'abord, je voudrais vous dire que l'on n'est pas sur la liste des rachetés, des engagés du Seigneur, parce que on aurait été baptisé, confirmé, communié, vacciné, marié ou enterré selon un rite religieux quelconque. On est sur la liste des rachetés par la conversion, et par la conversion seulement. Et ce n'est qu'après la conversion que l'on peut parler de baptême et de communion et de tout ce qui peut suivre. Cela revient à dire que ce n'est pas en essayant d'imiter Jésus-Christ, en essayant de faire de son mieux, comme on dit, que l'on peut être sauvé, mais ce n'est pas en l'imitant, mais en se convertissant à lui. Que penseriez-vous si un jour, il me montait à la tête l'ambition de devenir un grand champion cycliste? Pour le devenir, il me faudrait bien sûr imiter, non pas n'importe qui, mais l'un ou l'autre des plus grands que ce sport ait connu. Un Raymond Poulidor, un Jacques Anquetil, un Eddy Merckx, un Miguel Indurain ou un Lance Armstrong. Arrêtons-nous. Alors j'arrête mon choix sur ce dernier. Comme me parlant à moi-même, je me dis, tu vas imiter Armstrong l'Américain. Bien sûr, je vais l'imiter d'aussi près que possible. Je vais faire de mon mieux. Et je commence par suivre un régime pour perdre quelques kilos. Puis je vais me faire faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à Armstrong. Je me fais ôter quelques années de ma date de naissance. On me refait dans la chirurgie esthétique, on me refait le nez, les joues, le menton, je me fais repiquer des cheveux que je me fais teindre, je change mon nom et ma nationalité, et je me fais appeler Lance Armstrong, et j'apprends son accent, l'anglais avec l'accent américain. En supplément, je prends le vélo d'Armstrong, j'enfile le maillot d'Armstrong, les souliers, le dossard, le numéro de dossard d'Armstrong. Enfin, je ressemble à Armstrong comme une goutte d'eau peut ressembler à une autre goutte d'eau. Et je me présente pour une grande classique, appelons-la la nouvelle grande classique Genève-Besançon. Et bien sûr, comme vous êtes tous des supporters de l'Armstrong que je suis, vous allez vous poster au col de la Faucille, non loin du départ, là où la rampe est assez dure, et vous venez pour m'acclamer, moi, l'alias Armstrong. Arrivent les voitures officielles, les motards, et enfin, voilà le peloton qui se pointe et vous dites, il va passer en tête. Et en effet, en voilà un qui passe, mais c'est pas lui. Puis un deuxième, puis un troisième, puis tout le peloton passe et toujours pas d'Armstrong. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce qu'il est passé? Et vous attendez une minute, puis deux, puis cinq, puis dix, un quart d'heure. Vous dites, mais c'est pas possible, il a crevé. Non, il n'a pas crevé, il l'est. Et enfin, vous voyez quelque chose de qui arrive, une sorte d'escargot, un grand escogriffe qui pousse sur les pédales avec des allures d'hippopotame, la tête au niveau du moyeu de la roue avant, tirant une langue comme ça. Qui est-ce? Eh bien, c'est moi. Alias Armstrong. Vous avez compris que ça ne sert à rien de vouloir imiter Armstrong. J'ai beau faire, je n'arriverai jamais à rien. Par comparaison, quelle fantaisie ridicule, quelle prétention que de vouloir imiter Jésus-Christ, duquel il est dit « lui en qui il n'y avait pas de péché ». Rien que ça nous interdit toute tentative de réussir à l'imiter. Mais supposons, pour en revenir à notre authentique champion, que, par un miracle que je ne pourrais pas expliquer, Lance Armstrong, faut le prononcer juste Lance, paraît-il Armstrong, qu'il puisse venir habiter en moi, sans que je ne change rien, ni à mon identité, ni à mon aspect extérieur, et qu'il me donne son sens de la course, son endurance, son coup de pédale. Est-ce que je pourrais alors, sans rien changer extérieurement, gagner un Tour de France? Ah, mais bien sûr, alors. Bien sûr. Plus besoin de faire de ma vie une mascarade. Si Armstrong était en moi, alors je deviendrais un autre homme en restant parfaitement moi-même. Eh bien, là est le secret du salut. C'est que Jésus-Christ vienne habiter en nous. C'est la condition de départ. L'apôtre Paul avait expérimenté la chose. Il a dit, dans l'épître aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Je lis textuellement, c'est Christ qui vit en moi. Et le jour où je m'humilie devant Dieu, où je reconnais que ma vie est une faillite devant l'exemple de Christ, un exemple que je ne peux pas suivre ni de près ni même de loin, et qu'alors je lui dis, Seigneur, mais sauve-moi et viens mettre ta vie en moi. Dieu vient mettre en moi, par le Saint-Esprit, la vie même de Jésus-Christ. Je nais de nouveau, je deviens un autre homme, avec d'autres possibilités. Et alors, je peux envisager le baptême, et la vie chrétienne, et la Sainte Cène, et la communion, et le service pour Jésus-Christ. Mais il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire inviter Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça la conversion. Je veux maintenant que vous voyez deux hommes. L'apôtre Paul et Néron, l'empereur. Ces deux hommes ne sont séparés que de quelques mètres, et pourtant ils ont une course diamétralement opposée. Néron a vidé la coupe des plaisirs. Il est blasé. Il offre des récompenses à ceux qui inventeront de nouveaux plaisirs. Il est assis sur son trône à Rome, alors le premier du monde. Les grilles de son palais ont 1 kilomètre de long. Du plafond de la salle de banquet, des parfums tombent sur les convives. Il en vient de tous les pays du monde. Sa couronne vaut des millions. Sa mule est ferrée d'argent. 100 chars l'accompagnent quand il sort. Il ne porte jamais le même vêtement 2 fois, mais il est sombre. Il est misérable, il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sauvé. Et il finira le plus lamentablement du monde dans le suicide et il perdra son âme. À quelques mètres de là, Paul, le prince des apôtres, est tout seul dans un donjon d'une prison romaine. Il s'appelle lui-même le prisonnier du Seigneur, non pas le prisonnier de l'empereur. C'est-à-dire qu'il est là parce qu'un jour, il s'est converti à Jésus-Christ. Il a dit oui à Jésus-Christ. Une chaîne le lie à un soldat romain, et cette chaîne, il la porte depuis des années. Des cicatrices sur son corps parlent des plusieurs fois 39 coups qu'il a reçus. Sa face accuse la fatigue. Des sillons profonds sur sa figure parlent des nombreux périls qu'il a traversés. Il s'appelle lui-même « Moi, Paul le vieillard ». Non pas qu'il soit tellement vieux, mais il a vieilli avant l'âge. et l'exécuteur des hautes œuvres, le bourreau, aiguise sa hache. Mais Paul se réjouit toujours. Il a écrit avant son exécution une dernière lettre que nous possédons encore aujourd'hui, dans laquelle il dit « Le temps de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non pas à moi seulement, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. » La paix de l'apôtre Paul dépasse la compréhension de Néron. Pourquoi est-il en paix? Parce qu'il est sauvé. Dans quelques minutes, le corps décapité de Paul roulera sur les dalles de la prison. Les 6 premières étapes sont finies. La dernière commence, celle de la grande arrivée dans le royaume de Dieu. Mes amis, mes jeunes amis, êtes-vous prêts à vous convertir et à dire « Seigneur, jusqu'à la mort, je te serai fidèle » ? Et souvenez-vous qu'à l'aube du 3e millénaire, il y a plus que de mourir pour le Seigneur, c'est de vivre pour lui. Le Seigneur ne nous a jamais promis une traversée facile. Il nous a promis un sûr débarquement, et je répète, le Seigneur ne nous a jamais promis une traversée facile, mais un sûr débarquement. Si vous vous donniez au Seigneur ce soir, il est possible que vous fassiez l'expérience du missionnaire Henry Morrison. Il avait servi en Afrique noire, où il avait donné les 20 plus belles années de sa vie. Et après 20 ans de service pour le salut de ceux vers qui le Seigneur l'avait envoyé, il revenait en congé au pays pour la première fois. Et sur le même bateau, il y avait Teddy Roosevelt, qui rentrait d'Afrique lui aussi, après une partie de chasse au lion. Et quand le navire est arrivé en rade de New York, toutes les sirènes se sont mises à hurler. Les quais étaient noirs de monde, de gens qui venaient saluer le tueur de lions. Mais lui, le missionnaire de Jésus-Christ, qui avait donné 20 ans de sa vie, il n'y avait personne pour l'attendre. Il en ressentit de la tristesse dans son cœur. Et c'est alors qu'il entendit comme une voix qui lui susurrait à l'oreille « Courage, Henri, tu n'es pas encore arrivé à la maison. » Et il eut comme une extase. Devant ses yeux, les gratte-ciels de New York s'estompèrent. Le bruit des sirènes s'assourdit. Il se vit entrer dans la gloire. Les portails éternels s'ouvrirent. Il entendit les trompettes qui sonnaient, l'appel des noms, et puis un nom. Henry Morrison, présent. Bien fait, Henry Morrison. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La dernière étape. Mes amis, j'ai manqué plus d'un rendez-vous dans cette vie. Mais par la grâce de Dieu, je suis déterminé de ne pas manquer celui-là. Le Seigneur prend des engagements ce soir. Voulez-vous le recevoir? Faites-le dans la minute qui va suivre. Nous allons avoir un moment de recueillement, une minute de silence, nous appelons parfois ça une minute de vérité. Et pendant ce silence, je vous demanderai de lui parler. Ne lui récitez pas une prière, il connaît toutes ses prières par cœur, mais simplement laissez parler votre âme et donnez-vous à lui aujourd'hui pour qu'il vous sauve d'une part et pour qu'il renouvelle votre vie d'autre part. Faites-le avec les mots de chaque jour, faites-le silencieusement, intérieurement, intensément, mais donnez-vous à lui. Que Dieu vous bénisse et vous aide. Recueillons-nous à présent. Les paroles que je vais dire lentement, vous pouvez peut-être les répéter, les lui répéter avec le cœur. Dites-lui simplement, Seigneur Dieu, tu as parlé à plusieurs cœurs ce soir, et nous croyons que plusieurs se sont décidés pour toi. Seigneur, c'est aussi ma prière personnelle, veuille les accueillir selon ta promesse. Donne-leur le Saint-Esprit pour les convaincre intérieurement qu'ils sont devenus tes enfants. Et à côté de cette conviction intérieure, donne maintenant la puissance pour vivre une vie désormais différente, une vie qui te plaît, qui t'honore, une vie de progrès, une vie de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.